OK, troisième heure. Salutations aux gens de la Mauricie et du Centre du Québec qui nous écoutent sur le 106.9. Juste avant d'aller à Luc, vous avez été nombreux à continuer à m'écrire pour me parler voyage, par exemple. Nous avons acheté des billets pour la Nouvelle-Orléans avec American Airlines le 5 mai. Ça a été remboursé complètement. Ça semble confirmer la thèse de notre avocate d'option consommateur, là, Mme Thériault, qui disait que si vous voyagez avec une compagnie aérienne, il semble bien que c'est la loi américaine qui s'applique et donc l'obligation de rembourser est imposée aux transporteurs. J'en déduis que c'est ceci. Certains me parlent d'un remboursement partiel. Certains me disent on a eu une promesse de remboursement, mais on attend toujours l'argent. Certains me disent Air Canada, par exemple, nous avait dit qu'il allait nous rembourser, puis finalement, ils ont changé d'idée. Voilà. OK, donc dans cette troisième heure, d'ailleurs, on va reparler avion. Parce que là, l'aviation civile doit se réinventer pour gagner votre confiance. Dans quelles conditions on va pouvoir recommencer à voler? On va parler piscine également, parce qu'elles s'envolent comme des petits pains chauds. Et puis, on va parler fraises également. Mais d'abord, Luc Lavoie, bonjour.
Bonjour, M. Drainville.
Mon cher M. Luc, vous nous avez préparé, comme à chaque jour, une vaste tournée de la planète.
Oui, bien là, on se précise davantage là où bouge la pandémie. Okay. Alors, si on regarde au Québec, là, 71 nouveaux décès, 3718 morts et 578 nouveaux cas pour 44 775 cas. Au Canada, 6026 décès, 80 081 cas. Mm-hmm. L'Ontario a rapporté 390 nouveaux cas et 43 morts. Et je souligne que Santé Canada recommande finalement, officiellement, le port du masque lorsque les mesures de distanciation ne sont pas possibles. Mm. Maintenant, à l'échelle du monde, on vient de franchir le cap des 5 millions de cas.
Et voilà.
À 5 037 768 cas. Et 326 413 décès. Maintenant, l'Organisation mondiale de la santé a fait état aujourd'hui du plus grand nombre de nouveaux cas de COVID-19 dans le monde en une seule journée depuis le début de la pandémie.
Hein?
Ouais. Au cours des 24 dernières heures, l'OMS a dénombré 106 000 nouveaux cas. Et près des deux tiers de ces cas ont été déclarés dans quatre pays. Et le dernier m'étonne, je vais y revenir demain.
D'accord.
États-Unis, Russie, Brésil et Arabie Saoudite. Paraît-il qu'il serait à voir avec le ramadan puis l'incapacité des autorités à empêcher les gens de s'approcher de la Mecque. Enfin, je vais examiner ça pour demain.
D'accord.
Aux États-Unis, on a enregistré 1536 morts liées au coronavirus dans les dernières 24 heures. Mm-hmm. Cela porte à 91 845 le nombre de décès et à plus d'1,5 million de cas. Selon une moyenne de 9 modèles épidémiologiques réalisés par des chercheurs de l'Université du Massachusetts, le nombre de morts devrait avoisiner les 113 000 d'ici le 13 juin. On parle donc de 22 000 Américains en 25 jours qui laisseraient leur vie.
Hé, hey, 22 000 en 25 jours.
C'est énorme.
Hein? Ah, écoute, m'a dit, le calcul est facile à faire. Hein?
Ce matin, Trump s'est déchaîné sur son compte Twitter. Et là, je le cite. Un cinglé en Chine vient de publier un communiqué accusant tout le monde, à l'exception de la Chine, pour le virus qui a tué des centaines de milliers de personnes. Merci d'expliquer à cet abruti que c'est l'incompétence de la Chine et rien d'autre qui a provoqué cette tuerie de masse mondiale. Je répète l'expression, là. Tuerie de masse mondiale. Ça recommence à ressembler à du langage extrêmement belliqueux. Et on est en train de voir se dessiner une sorte de guerre froide naissante là, entre la Chine et les États-Unis. Et c'est rien de rassurant.
Hey, imagine-toi, là, on n'est pas rendu encore à l'élection, là.
Et non, puis ça va aller en s'accélérant.
Ah, c'est sûr.
Puis là, j'y viens à quelque chose qui va être très important. Mais commençons par le début. Dans un autre tweet, le président Trump a évoqué la possibilité ce matin d'organiser le sommet du G7 de juin à Camp David, et non pas par visioconférence comme cela avait été décidé en raison de la pandémie. Et je le cite à nouveau, « Maintenant que notre pays a engagé son retour vers la grandeur,
greatness.
J'envisage de reprogrammer le G7 à la même date ou à peu près à Camp David, lieu légendaire. Les autres membres du G7 entament eux aussi leur retour, ce serait un symbole formidable pour tout le monde.
Est-ce que c'est normalisation. C'est au tour des Américains là,
c'est eux qui reçoivent.
Oui. Ouais. Camp David, lieu légendaire où il ne va jamais d'ailleurs, parce qu'il passe son temps à aller en Floride, mais ça c'est un autre débat.
Trudeau a réagi à ça en disant que c'était une idée intéressante, mais qu'avant de prendre une décision d'y aller ou pas, il voudra connaître les mesures sanitaires qui sont en place.
Oui, il va vouloir surtout parler à Merkel et Macron et compagnie.
Oui, probablement. Hein?
Ouais. Parce que je pense que les six autres vont se faire un petit caucus là, pour regarder, ils ont fait quoi avec ça, nous autres.
Ouais. Et là, on arrive à un enjeu qui va nous faire paraître la guerre des masques au début de la pandémie comme de la petite bière. Parlant d'un futur vaccin qui pourrait être développé aux États-Unis, Francis Collins, le directeur des Instituts nationaux de santé, estime que ce nouveau vaccin devrait être considéré, et je le cite, comme un bien public mondial. Ce scientifique responsable d'un organisme de recherche qui est doté d'un budget de 42 milliards de dollars a dit se préoccuper particulièrement de l'Afrique. Si nous obtenons, et je le cite, si nous obtenons un vaccin qui marche, j'aimerais qu'il soit disponible au plus vite là-bas et en Amérique du Sud. Nous avons une grande responsabilité. Nous sommes le pays le plus riche au monde et nous ne pouvons pas nous contenter de nous occuper de nous-mêmes. Ce serait terrible. Ouais. Et il conclut en disant « Tout le monde a le droit d'obtenir ce qui peut sauver sa vie dans une pandémie telle que celle-ci. » Imagine-toi en année électorale, penses-tu que Trump dira pas aux gens « America first. Les Américains passent en premier. »
C'est sûr, hein? C'est sûr.
Puis il faut savoir que l'un des vaccins expérimentaux les plus avancés dans le monde, c'est celui de la société biotechnologique américaine Moderna, à qui le gouvernement américain a accordé près d'un demi-milliard de dollars pour sa recherche. Washington a aussi passé un contrat avec le laboratoire français Sanofi pour avoir priorité sur la future production d'un vaccin. Ce qui a provoqué un tollé en France et l'entreprise a dû clarifier que cette priorité ne valait que pour les usines américaines. Alors, imaginons un scénario, Bernard, on découvre un vaccin, OK? Puis on ne peut pas en produire 7 milliards en une semaine. Il y a 7 milliards d'humains sur Terre. Alors, comment tu penses que ça va se jouer, ça, entre les puissances, avec les pays pauvres, les économies émergentes? Comment ça va se disputer, cette affaire-là? Ça va devenir une crise mondiale par-dessus une autre crise.
Ça risque d'être l'intérêt national, comme dirait l'autre.
Et ce qui est dramatique, parce que le virus ne connaît pas de frontières. Il devrait y avoir une stratégie mondiale pour décider à quelle vitesse et dans quelle région, d'abord, on administre le vaccin pour s'assurer que ça vient fermer des portes pour continuer la propagation,
Ah, ben ça, tu vois, ça, je trouve que c'est un bon argument. De faire valoir que c'est dans ton intérêt national que telle autre région l'a pour éviter, par exemple, qu'une deuxième ou une troisième vague se présente sur ton propre territoire. Donc, tu sais, en appeler, je m'excuse d'utiliser ces mots-là, là, mais en appeler à l'intérêt égoïste de certains citoyens, dans le fond, de certaines nations.
Mais c'est le moment, Bernard, c'est la première fois, et ça, c'est toujours une réflexion que je me fais, c'est la première fois que je connaisse que l'humanité entière a un ennemi commun. Alors, l'humanité entière aurait tout intérêt à travailler ensemble. Or, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est un repli vers chacun des endroits, chacun des pays, chacune des juridictions. Et quand tu arrives à la distribution du vaccin comme ça, tu vois très bien que ça a plein de sens. Ça a plein de bon sens de dire, écoute, si on est pour administrer un vaccin à l'échelle planétaire, faisons-le de façon systématique, de façon rationnelle, à quelle place que je vais couper les chemins de la propagation, à quelle vitesse. Enfin, on est loin de ça avec un président comme Trump et un autre fou comme Bolsonaro puis ces gars-là.
Mais Luc, tout ce que tu dis a plein de sens, là, mais le jour où il va y avoir un vaccin, là, t'as vu comment l'opinion publique a réagi quand on a envoyé du matériel médical, au début de la crise, on a envoyé du matériel médical vers la Chine. Il y a eu beaucoup de citoyens qui ont dit, hey, c'était quoi cette idée-là de leur envoyer du matériel alors que nous, on en a manqué dans les semaines qui ont suivi. Tu peux être certain que s'il y a un vaccin ici à un moment donné, surtout s'il a été subventionné par des fonds publics, les Canadiens vont dire, OK, on est prêt à le partager là, avec d'autres, mais on va d'abord se servir nous-mêmes. Puis sais-tu quoi? Je pense que c'est normal. Puis je pense que les autres pays vont faire la même affaire.
C'est normal, peut-être. En temps normal, c'est normal. Mais ce ne sont pas des temps normaux. Nous sommes en train de vivre, je le répète, une attaque par un ennemi invisible qui attaque tout le monde indifféremment. Alors, tout le monde a tout intérêt à travailler ensemble. Enfin, je sais que mes propos sont remplis d'idéalisme et d'utopie.
Non, mais non, néanmoins... mais moi, ce que je dis, c'est que tu peux pas, à mon avis, là, tu peux pas faire abstraction du réflexe normal du citoyen de dire « j'ai payé pour, je veux l'avoir ». Mais après, par contre, une fois que tu as servi tes citoyens, une fois que tu les as vaccinés, qui est le prochain sur la liste? Et là, je pense qu'il faut regarder, il faut avoir une stratégie, je dirais, planétaire. Il faut regarder les zones qui, oui, en ont besoin, mais aussi les zones qu'il faut protéger pour se protéger nous-mêmes.
Mais Bernard, pense à Moderna, là, ceux qu'on dit qui sont parmi les plus en avance, là, parce qu'il y a également un groupe à l'Université d'Oxford qui avance très vite vers un vaccin. Bon, Moderna a eu 500 millions de subventions. Moderna a investi aussi. Moderna est une entreprise privée. Alors, on va se retrouver avec la réalité suivante. Mon premier acheteur, c'est celui qui m'aura donné le plus d'argent, puis l'autre qui va suivre, puis l'autre qui va suivre, ce qui mène à une hécatombe dans des continents comme l'Afrique. L'Afrique commence à être frappée fort. Ils n'ont ni l'infrastructure médicale, ni l'infrastructure de santé d'aucune façon. Et là, en fait, le dilemme va se poser. Ça va être une question de conscience internationale.
Je suis d'accord avec toi.
Alors, continuons rapidement, Bernard.
Allons-y, mon cher.
8764 nouveaux cas enregistrés en 24 heures. La Russie enregistre son plus faible total quotidien depuis le début du mois de mai. Avec 308 705 cas, la Russie reste le deuxième pays du monde en nombre de contaminations derrière les États-Unis et devant le Brésil. Parlant du Brésil, il a dépassé pour la première fois le cap des 1000 morts en une journée. On en dénombre 1179 en 24 heures. Si la tendance se confirmait au cours des prochains jours, le Brésil connaîtrait une phase d'accélération de la pandémie dont le pic n'est pas prévu par les experts avant le début de juin. Et à la suite du président Trump... Son frère idéologique, le président Bolsonaro, recommande l'usage de la chloroquine contre l'avis des experts du monde entier.
Ah oui, mais c'est ça que j'allais dire. Son efficacité n'est pas démontrée.
Mais pas du tout. Et Trump dit en consommer quotidiennement. Alors, tu comprends, quand il a fait cette recommandation-là, son ministre de la Santé, qui avait nommé il y a 28 jours, a remis sa démission.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est un général qui a été nommé à la place comme ministre de la Santé.
Ça obéit, ça, monsieur. Ça prend des ordres.
C'est sûr.
En terminant avec le cas de l'Inde et du Bangladesh, comme si on n'en avait pas assez de la pandémie, ces deux pays ont dû évacuer 3 millions de personnes en prévision d'enfants, qui est le cyclone le plus puissant à naître dans le golfe du Bengale depuis 1999. Et tout ça se déroule alors que ces deux pays sont sous confinement assez sévère. Alors, comme s'il n'y en avait pas assez, ils vont être frappés. Ils sont présentement frappés, puis il paraît que ça frappe dur. Et voilà.
Et voilà. Puis, mon Dieu, ils sont combien en Inde? Ils sont au-dessus du milliard maintenant, hein, l'Inde?
1,3, je crois.
Oui, puis le Bangladesh, c'est un pays qui est extrêmement pauvre, avec très, très peu d'infrastructures. Si ça pogne là-bas, là, on va dire, là, oh, boy.
On va être dans le trouble.
OK, Luc, on va s'arrêter, mais on va se reparler dans pas long. Parce qu'après la pause, j'ai réalisé un peu plus tôt ce matin une entrevue avec Jean Lapointe, qui est un pilote, et qui va nous expliquer ce qui nous attend comme voyageurs, là, t'sais, comme passagers. Il y a des grands changements qui se préparent dans le domaine de l'aviation. Il va nous donner une petite idée, il nous explique ça. Et Luc, grand voyageur devant l'éternel, tu vas revenir avec un commentaire. Donc, on se reparle dans quelques minutes. On s'en va à la pause, au retour, Jean Lapointe.